À l'écoute de RFI, 19h30 à Paris et Kinshasa, 18h30 en temps universel.
Afrique Soir sur RFI.
Et c'est l'heure de retrouver toute l'actualité africaine. Pendant 30 minutes, la première édition d'Afrique Soir vous est présentée par Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une, la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo après la prise de contrôle par le M23 et l'armée rwandaise de Bukavu ce week-end. Pas de sanctions ni de plan de sortie de crise à l'issue du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba hier. Le Rwanda fait-il peur? Pourquoi ce malaise? Nous en parlerons avec l'invité d'Afrique Soir, le chercheur Paul Simon en dit. Et puis au plan diplomatique, les responsables catholiques et protestants multiplient leurs consultations. Rencontre des dirigeants de l'AFC M23 à Goma, du président Kagame à Kigali ou encore des représentants politiques congolais à Bruxelles. Dans l'actualité encore, l'Est et le centre-nord du Burkina Faso frappés par une série d'attaques djihadistes ces derniers jours. La fin de la grève des enseignants au Mali. Après 3 semaines de conflit, le gouvernement de transition ouvre enfin le dialogue. Et puis un plan d'austérité au Sénégal, parmi les mesures annoncées, la baisse des salaires des ministres. La guerre dans l'est de la RDC après le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, c'est au tour du président du Congo, Brazzaville, d'exprimer des inquiétudes. Denis Sassou Nguesso dit craindre une guerre régionale. Hier dimanche, les rebelles du M23 et les éléments de l'armée rwandaise ont pris le contrôle de Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Occupation confirmée et dénoncée par le gouvernement congolais à Kinshasa. Plusieurs chancelleries occidentales ont également condamné l'occupation de la ville, où la situation était relativement calme aujourd'hui, car contrairement à Goma, il n'y a pas eu de réel combat. Et ce matin, les habitants commençaient à timidement sortir de chez eux, comme Josué Kayeye, ancien de la société civile et acteur politique.
Nous nous réjouissons d'abord du fait qu'il y a eu de la calmie relative et aussi qu'il n'y a pas eu de morts enregistrées. Tôt le matin, nous avons eu à sortir dehors. Nous avons observé l'engouement des gens, de la population locale qui a pu circuler. Et du coup, il y a eu la circulation du transport en commun. Et les habitants sont sortis pour se ravitailler parce qu'il y avait déjà des petits marchés qui ont ouvert, par exemple, vers l'hôpital général, avec timidité, bien sûr. Même les particuliers n'ont pas encore ouvert, les restaurants, les terrasses n'ont pas encore ouvert comme tel. Il y a encore un peu de réserve pour ouvrir des grandes portes, des grandes boutiques et des grands magasins. Donc dans la ville, il y a eu au moins de l'engouement pour se ravitailler, pour se saluer, pour sortir et pour observer ce qui se passe. En tout cas, l'ambiance est un peu timide, mais au moins, elle était rassurante pour l'instant.
Voilà des propos recueillis par Alexandra Brangeon. Et cette occupation de Bukavu, on le disait, a été condamnée par plusieurs chancelleries occidentales qui demandent à Kigali le retrait de ses soldats du sol congolais et l'application d'un cessez-le-feu. Pendant ce temps, les responsables religieux, catholiques et protestants poursuivent leur mission de consultation dans le cadre de ce qu'ils appellent un pacte social pour la paix après avoir rencontré les dirigeants de l'AFC M23 à Goma, le président Kagame à Kigali. Ils sont désormais en Europe, les responsables de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, et de l'Église du Christ au Congo étaient ce week-end à Bruxelles où ils ont rencontré plusieurs composantes de l'opposition politique congolaise. À Kinshasa, Pauline Assidi.
Ce dimanche, c'est avec Moïse Katumbi et ses proches que les responsables des églises ont échangé. Comme à chaque fois, les religieux ont présenté leur mission, détaillant leur pacte social, mais ils ont surtout écouté. Ils recueillent les points de vue des politiques et des acteurs de la région pour remettre un rapport au président, a expliqué un participant aux échanges. Du côté de Moïse Katumbi, on assure soutenir cette démarche. Il n'y a pas d'autre voie possible, estime-t-on, dans le camp de l'opposant. Tous les Congolais doivent se mettre autour d'une même table pour se parler, a déclaré le sénateur d'ensemble Salomon Kalonga. Samedi, les religieux se sont entretenus avec l'ancien député Claudel Loubaya, mais aussi Jean-Claude Mwemba ou encore Franck Diongo, et surtout avec des représentants du FCC, la plateforme politique de l'ancien président Joseph Kabila. Enfin, la CENCO-ECC s'est aussi entretenue avec le représentant de l'Union européenne pour les Grands Lacs. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et si l'Union africaine a mis en garde hier contre une balkanisation de la RDC, le sommet des dirigeants de l'organisation n'a abouti sur aucune sanction ni plan de sortie de crise, pas de condamnation explicite du Rwanda. Pourtant, c'est ce que demandait Kinshasa. La RDC, elle, était représentée par la première ministre Judith Suminwa, qui a affirmé que le Rwanda violait les principes fondamentaux de l'acte constitutif de l'UA en menant une agression armée contre un autre État souverain. Alors, le Rwanda a-t-il effectivement violé la charte de l'Union africaine? Paul Simon Andy, directeur Afrique de l'Est de l'Institut d'études de sécurité, répond à Arthur Ponchelet.
C'est très clair, il y a une vraie violation de la charte de l'Union africaine. Il y a en effet violation de l'intégrité territoriale du Congo. Mais une fois qu'on l'a dit, il faudrait considérer aussi les griefs de l'autre partie, notamment du Rwanda. Le Rwanda se plaint d'une violation d'un principe fondamental de la charte de l'Union africaine, qui est le respect de la dignité, le respect de l'humanité de certaines populations du Congo. Ces deux version, c'est ce qui rend une condamnation du Rwanda extrêmement compliquée, compte tenu du mode de gestion qu'on peut critiquer, particulièrement du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.
Est-ce que vous diriez que le Rwanda fait peur à une partie des chefs de l'Union africaine ?
Non, je ne pense pas que le Rwanda fasse peur. Je pense que le Rwanda a tout simplement fait un travail diplomatique énorme. Je pense que le Rwanda a su construire au fil des années des amitiés, des alliances, des connexions qui gênent certains pays, notamment à prendre une position tranchée là-dessus. Je pense pas qu'il s'agisse de peur, il s'agit peut-être de stratégie. Et là, le Rwanda s'est peut-être avéré efficace. Le même travail devrait peut-être être fait aussi par la RDC, qui a des atouts, qui siège au Conseil de paix et de sécurité à Addis Abeba, qui a fait un travail diplomatique énorme en dehors de l'Afrique, de ce côté. On a vu au Conseil de sécurité, on a vu à l'Union européenne le travail remarquable fait par la diplomatie congolaise. Il faudrait peut-être étendre ce travail au niveau de l'Union africaine et des communautés économiques régionales.
Justement, la première ministre congolaise s'est exprimée au sommet de l'UA. Elle a dit, et je la cite, « L'Union africaine ne peut cautionner l'impunité. Laisser cette agression sans réponse, c'est créer un précédent dangereux pour chaque État représenté ici. » Visiblement, les pays de l'Union africaine n'ont pas été sensibles à cet argument.
Peut-être qu'ils ne l'ont pas vraiment écouté et peut-être qu'ils ne l'écouteront que lorsqu'ils seront eux-mêmes concernés. Mais je pense que les propos de la première ministre sont justes. C'est la position du Congo et elle est forte en fait. On peut se demander si l'Union africaine voudrait cautionner le fait que pour résoudre un problème, on puisse avoir recours à une telle démonstration de force militaire. Ça symbolise une crise du multilatéralisme africain, notamment une crise aussi de mode de gestion de l'Union africaine.
Paul Simon Andy, directeur Afrique de l'Est de l'Institut d'études de sécurité, avec Arthur Ponchelet dans Afrique Midi.
RFI.
18h38 en temps universel au Burkina Faso, un détachement de l'armée a été ciblé hier par des djihadistes à Séguénéga. C'est dans la région nord du pays. C'est la dernière attaque d'une longue série en moins d'une semaine. Le bilan n'est pas encore connu et depuis la semaine dernière, au moins 4 localités du nord et de l'est du pays ont subi des assauts similaires revendiqués par le JNIM d'Al-Qaïda, faisant des victimes civiles comme militaires, selon nos informations. Sidi Yansané.
Les 12 et 14 février dernier, ce sont deux assauts qui viennent frapper la région de l'Est. Le premier à Tanwalbougou, près de Fadagourma, où, d'après des sources locales, l'attaque d'un détachement de la gendarmerie a causé la mort de 12 gendarmes et VDP. Le second à Balga, où les djihadistes ont sommé aux habitants d'abandonner leur village par crainte de représailles. Le lendemain, dans la région voisine du centre nord, c'est un détachement de l'armée qui est visé à Dargo. D'après les témoignages recueillis par RFI, les soldats ont abandonné leur poste devant des terroristes en surnombre. Les assaillants ont filmé leurs butins, des armes, des moyens de communication et de transport. Les djihadistes ont aussi mis la main sur un drone de surveillance avant de mettre le feu à la base militaire. Le JNIM, branche locale d'Al-Qaïda, a revendiqué toutes ces attaques. Pour l'instant, il n'y a pas eu de communication de la part des autorités burkinabées.
Au Mali, après 3 semaines de grève très suivie, les enseignants-chercheurs ont repris le chemin des universités aujourd'hui. La coordination syndicale demandait depuis fin janvier l'application de la prime de recherche. Et après avoir un temps ignoré le mouvement, le gouvernement malien de transition a finalement ouvert le dialogue. Il a mis en place avec les syndicats une commission de réflexion, mais tout reste encore à négocier. David Bachet.
La commission de réflexion est composée de conseillers du ministère de l'Enseignement supérieur, de représentants de la coordination syndicale SNESUP-SECMA et de représentants de la conférence des recteurs d'université. Une première réunion leur a permis de s'accorder sur les objectifs. D'abord, fixer les modalités d'application de la prime de recherche, notamment le calendrier et la question des arriérés, puisque la prime a été créée en 2017 sans jamais être versée. Dans un second temps, sera négocié le montant de cette prime. À terme, la commission devra proposer un avant-projet de décret. Une avancée jugée suffisamment constructive par les leaders syndicaux pour suspendre la grève. Dans un message à ses militants, la direction du syndicat SECMA se félicite de la détermination des grévistes. « Nous avons pu faire entendre notre voix », écrit le secrétaire général Bakary Berthé. Plusieurs enseignants-chercheurs, membres de la coordination syndicale, confient cependant leurs doutes. La création de cette commission est certes un premier pas, mais la grève est levée sans que rien de concret n'ait encore été acquis. « J'espère qu'ils savent ce qu'ils font », commente un enseignant-chercheur ayant scrupuleusement observé les 3 semaines de grève et qui oscille désormais entre scepticisme et optimisme.
RFI à Dakar, 92 FM.
Où le gouvernement annonce des mesures d'austérité face à un contexte budgétaire extrêmement tendu et alors qu'un rapport de la Cour des comptes révèle un déficit budgétaire de plus de 12%, invité à la télévision publique, le secrétaire général du gouvernement, Amadou Al-Aminou Lo, a annoncé plusieurs mesures, parmi lesquelles la baisse des salaires des ministres. Léa Lisa Westerhoff.
L'ampleur de la baisse et la date de sa mise en application ne sont pas encore connues, mais le secrétaire général du gouvernement s'est voulu catégorique hier. Il va falloir se serrer la ceinture, à commencer par l'État, a affirmé Ahmadou Al-Amin Lo dans une émission télévisée. Les directeurs généraux d'entreprise et les ministres vont devoir baisser leurs salaires, pas les autres fonctionnaires, précise un membre de la communication du gouvernement. Une mesure qui a toutes les chances d'être populaire. Interrogé sur le sujet par le média en ligne Cnéweb la semaine dernière, 83% des 4000 votants ont répondu en faveur d'une baisse des salaires des ministres. Autre annonce, la suppression d'agences de l'État pour réduire les dépenses, mais aussi la fin des subventions du prix de l'électricité pour les industries et les plus riches. Enfin, l'impôt, le gouvernement n'a aucune marge, a expliqué le secrétaire général du gouvernement. Avec une dette à presque 100%, le Sénégal ne peut pas s'endetter plus. Ne reste que l'arme fiscale, a expliqué Ahmadou Al-Amin Lo. Des mesures d'austérité qui interviennent dans un climat social explosif. Le ministre a appelé à des discussions sincères avec les syndicats, alors que les menaces de grève se multiplient. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Vous écoutez Afrique Soir, 18h43 en temps universel. En bref, en Ouganda, l'opposant historique Kizza Besigye a été brièvement hospitalisé la nuit dernière. En grève de la faim depuis près d'une semaine, son état de santé s'est dégradé. Selon son avocat, il a été ramené en prison aujourd'hui. Kizza Besigye, ancien médecin personnel du président ougandais Yoweri Museveni, est dans le collimateur du gouvernement depuis son ralliement à l'opposition. Les États-Unis et les Émirats arabes unis ont de nouveau procédé à des frappes de drones hier au Puntland. Depuis plusieurs semaines, cette région semi-autonome de la Somalie a lancé une vaste opération antiterroriste. Elle cible l'organisation État islamique installée dans les montagnes Al-Miskad dans le nord-est du Puntland. Les explications de Gaël Alex.
Ce sont les Américains qui ont bombardé les premiers. 2 frappes de drones dans la matinée dans la région de Bari, selon la brigade antiterroriste du Puntland. Quelques heures plus tard, c'est dans la zone de Darar Madoubé que les drones émiratis ont frappé, tuant 12 terroristes. Dans un communiqué, Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, affirme avoir neutralisé 2 combattants de l'État islamique. Cela fait plus d'un mois maintenant que le Puntland mène une opération antiterroriste d'envergure contre le groupe État islamique. Les autorités estiment avoir tué plus de 100 combattants la semaine passée. Un bilan difficile à vérifier, mais le groupe est incontestablement affaibli, concède Omar Mahmoud, chercheur chez International Crisis Group. Le I au Puntland inquiète de plus en plus la communauté internationale. Selon un rapport de l'équipe de surveillance des sanctions des Nations Unies publié la semaine passée, le calife de l'organisation serait aujourd'hui Abdul Kadir El-Moumine, chef de la branche somalienne. Élevé au rang de directeur général des provinces de l'État islamique par le passé, il a assumait déjà le contrôle des filiales africaines du groupe. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Les sports en République démocratique du Congo, certaines disciplines sportives ont bien du mal à se structurer. C'est le cas de la lutte. Plus aucune compétition n'a eu lieu depuis les derniers Jeux de la francophonie. C'était en juillet 2023, autant dire que ça remonte. Les championnats nationaux n'ont pas été organisés depuis 6 ans. Et la direction technique nationale congolaise a organisé une compétition pour classer les meilleurs lutteurs du pays. Et pendant 4 jours, ceux-ci se sont retrouvés au stade Tata Raphaël de Kinshasa en présence d'Olga Massangou.
C'est dans un gymnase du stade Tata Raphaël, qui ne s'ouvre presque plus depuis les derniers Jeux de la francophonie, que les amoureux de la lutte se sont retrouvés pour se régaler et retrouver la sensation des championnats nationaux. Des combats dans plusieurs catégories pour permettre à Bertrand Bassampi, directeur technique national, de situer le niveau de chacun des athlètes, lui qui doit constituer les sélections nationales en prévision des championnats africains.
Chaque athlète qui doit intégrer au sein de l'équipe nationale soit vraiment un meilleur, un vrai champion. Alors il faut passer aussi par une compétition qui doit nous aider.
Une tâche difficile pour la direction technique quand le dernier championnat national remonte à 6 ans. Bamona Percy, 86 kilos, est l'un des champions de la soirée.
Il faut 4 victoires.
Je viens de gagner mon premier combat 8-2. Il me faut 4 victoires sans défaite pour que je sois champion.
Entre une implantation totale de la discipline dans les provinces, son organisation et la participation des équipes nationales au championnat africain de la spécialité, c'est un vrai défi qui attend le nouveau comité de la FECOLUTA. Olga Massangou, Kinshasa, RFI.
Cotonou, 90 FM.
Le reportage Afrique nous emmène dans le nord du Bénin. Le pays a subi le 8 janvier une attaque qui a coûté la vie à plus d'une trentaine de soldats dans la zone dite du point triple. C'est à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso. Revendiquée par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, elle s'est soldée par la plus lourde perte depuis le déploiement de l'opération Mirador. Magali Lagrange s'est rendue dans le nord du pays, à Banikoara. La situation sécuritaire est dans tous les esprits et les habitants adaptent leurs habitudes, surtout en soirée.
Les commerces sont ouverts à Banikoara Centre. Issiako attend les clients derrière la grille de son kiosque jaune et bleu.
C'est mon activité, ça. Je fais transfert d'argent et je vends des crédits aussi. Avant, ça marche. Mais maintenant, c'est la patience. Le temps est un peu dur. Dans la journée, comme ça, on ne vend pas. C'est le matin, le soir. Et maintenant, le soir aussi, notre temps est limité. Je quitte ici à 20h30 pour ma sécurité aussi.
Plusieurs sources locales évoquent le transport de carburant par des jeunes soupçonnés de ravitailler les groupes armés.
Des fois, les militaires viennent pour embarquer certaines personnes. On leur dit que, bon, vous avez transporté les bidons d'essence, amener ça de l'autre côté de la commune. Parce qu'il y a certaines localités, tu ne peux pas aller là. Si on te prend là, c'est toi seul, tu vas subir les conséquences. Nous-mêmes, on ne se retrouve pas. Hein.
À côté de lui, des émigrants, des mototaxis patientent à l'ombre. Ce jeune homme, casque sur la tête, s'arrête sur un côté de la voie pavée.
Ah, vraiment, il y a la peur. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Si on prend, on voit que c'est quelqu'un, il est djihadiste, on ne sait pas où. C'est pour cela qu'on a toujours peur de faire même le travail. Par exemple, les lieux interdits d'aller à cause de l'insécurité, là. Comme Djumbaro, Kabaro. Au niveau des Mekrou, on ne peut pas aller tous ces liens-là. Tu parles là-bas, on va te qualifier comme tu es aussi djihadiste ou bien comme si tu es aussi un criminel. Donc ça fait qu'on reste toujours en ville.
Brouettes, motos et piétons circulent dans les rues adjacentes. Ce jeune homme vend des produits alimentaires avec son père. L'activité marche bien. C'est surtout le soir que la vie a changé.
La nuit, il y a les militaires qui font la patrouille. Donc à partir de 0h du jour, il n'y a pas trop de promenade. Donc il y a un confinement, on dirait. Ah bon, avant, j'avais l'habitude de me promener un peu aux alentours de 22h et aller jusqu'à 01h comme ça. Mais dès que les militaires ont commencé, du coup, à 22h, déjà, je suis à la maison. On entend des frappes ailleurs, on entend, donc on ne sait pas quand est-ce que ça vient chez nous. Mais quand même, pour l'instant, ça va.
Il n'y a officiellement pas de couvre-feu à Banikoara Centre, mais de sources locales, plusieurs villages de la commune, riverains du parc W et frontaliers du Burkina Faso, sont concernés de 18h à 6h du matin. Magali Lagrange, de retour de Banikoara, RFI.
Et c'est une série de 4 reportages dans le nord du Bénin que nous vous proposons jusqu'à jeudi. C'est également à retrouver sur notre site internet rfi.fr. 19h49 ici à Paris, 18h49 en temps universel, à suivre sur votre radio ce soir. Accent d'Europe. L'Union européenne veut interdire les systèmes de reconnaissance faciale, mais au Royaume-Uni, de plus en plus de commerces ont installé des caméras de surveillance. Pourquoi ? Eh bien, pour repérer les voleurs à l'étalage. Et cette pratique inquiète les défenseurs des droits et des libertés individuelles.
C'est très dangereux pour une société de voir les moyens de sécurité privée se multiplier à ce point. Plus la sécurité est confiée à des entreprises privées, moins il y a de chances que ces lois soient respectées. Donc on s'éloigne de plus en plus de l'idéal d'une société fondée sur l'état de droit.
Accent d'Europe à 20h10, heure de Paris, ou en podcast sur le site d'RFI ou encore sur l'application Pure Radio. À suivre également ce soir, Couleur Tropicale, Olivier Dubois, journaliste français spécialiste du Sahel, vient présenter son livre « Prisonnier du désert, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda », un livre publié aux éditions Michel Lafon et dans lequel il témoigne de ses 2 années passées en détention au Mali. Et puis Thomas Sidibé, artiste passionné par le Mali, son pays d'adoption depuis l'adolescence. Son nouvel album Dakan, qui veut dire destin en bambara, est le 7e de sa discographie. Il est sorti le 10 janvier, c'est tout récent. On va écouter justement ce morceau, Tellement, Tellement, de Thomas Sidibé.
L'enfant béni de la Tiabougou et Rajamé. Appelle-moi Thomas Koteba. Pour le tigre et la gueule à pizza. Plutôt n'y a mon Gucci que Coca. Dans la poche, 2-3 colas. En Jakarta, on saute à main. Partout j'entends, c'est des bébés que ça va. Tellement, tellement y'en est qu'à digner. 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 Bamako, c'est nous. Bienvenue, ça y est, on est chez nous. Ibora, Icasso, Isera, Icasso. Jatigia depuis le berceau. Dans tous les quartiers, dans tous les ghettos. Y'a des coros, dans tous les carrés. Dans tous les balachons, dans tous les balachons. Djougouya, n'est au fait. Nyengouya, n'est au fait. Ça, ça peut m'étouffer. Kouma Kamise, mes chalets sont forts. En m'aignant au mollo jusqu'à la mort.
Thomas Sidibé, tellement, tellement écouté ce soir dans Couleur Tropicale, cet artiste passionné par le Mali.
RFI, les voix du monde.
Et on va poursuivre en musique avec la playlist d'RFI de ce mois de février. C'est une sélection de Pierre Vallée. Il s'agit du groupe Kin Gongolo Kinyata, originaire de Kinshasa. Ce groupe s'est formé autour d'une idée très simple, faire de la musique avec des instruments de récup qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Ça va des bouteilles en plastique en passant par des percussions faites à base de boîtes de conserve, une guitare avec une seule corde. Et ces artistes de rue nous proposent l'Isekit. C'est un son afro avec une une base électro-funk très trance dans l'énergie. On y retrouve, nous dit Pierre, une touche de rock à certains endroits. Un son qui ne s'excuse pas d'exister, qui porte son message panafricaniste à la manière d'un certain Jupiter. Le titre du morceau, c'est « Lycée quitté ». Et les instruments de récupération, c'était le groupe Kin Gongolo Kinyata en sélection sur la playlist des RFI à retrouver sur les plateformes musicales. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette première édition d'Afrique Soir. Prochain journal sur la radio du monde, ce sera en compagnie d'Amélie Beaucourt. Merci à Arthur Geoffroy pour la réalisation et à toute l'équipe d'Afrique Soir. Bonne soirée à vous sur la radio du monde.
La chaîne WhatsApp de RFI compte désormais 2 millions d'abonnés.
Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à consulter sur votre téléphone nos résumés de l'actualité internationale, nos analyses et notre sélection des meilleures émissions de RFI.
Nous vous remercions pour votre confiance et votre engagement à nos côtés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est simple. Allez vite sur l'onglet « Actu » de votre application et venez rejoindre la communauté WhatsApp de RFI. RFI, la sélection du mois.
Gabriela Lima.
Me colocou e então você chegou.
Give me that, give me all you got.
Les Faya.
Don't find another man, girl, don't do that. Give me this, give me that, give me all you got. You say you want another man, girl, don't do that.
Youssoupha.
C'est pas si grave de faire des erreurs. Ce qui est grave, c'est de vouloir les ignorer. Le but, c'est pas d'être la meilleure. Le but, c'est de chaque jour s'améliorer. Imani.
Jaron Marshall et Jadanae.
Pour ce job, tu ferais mieux aller faire ton shopping. On s'en sort.
toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Quand l'écriture guérit, thérapie par la création littéraire encadrée par des soignants, comment fonctionne cette écriture refuge, écriture qui soulage?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Demain sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
392 après Jésus-Christ, l'Empire romain se disloque et avec lui disparaît le paganisme pour faire place à une nouvelle religion, le christianisme. Dans le dernier roman de Catherine Clément, les dieux vivent, aiment, meurent et se disputent. C'est un roman drôle et une leçon d'histoire.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.